Nous revenons ici à Kinshasa tout de suite pour prendre deux questions, une à gauche, une à droite. Passez le micro, s'il vous plaît.
Roger Marley Lukunga pour Écho de la MP. Le week-end qui vient de s'écouler était marqué par une recrudescence des cas de violence et de viols sur les demoiselles. Nous aimerions savoir, au vu de l'accroissement de ces cas de viols sur les femmes, quelle stratégie pourriez-vous cette fois-ci mettre en application pour ne fût-ce que pour diminuer ces genres d'actes qui n'honorent pas les femmes? Parce que dernièrement, la ligne verte que vous avez mise en application, même l'alerte précoce, n'a pas réussi. Au regard de tout cela, n'avez-vous pas d'autres stratégies à appliquer en sus de cela?
Oui, merci. Permettez-moi de ne pas partager votre point de vue concernant justement l'augmentation des cas de violences sexuelles. Je dois tout simplement dire que des mécanismes appropriés ont été mis en œuvre et qui fonctionnent normalement. Si on prend par exemple le cas des Community Alert Network, qui sont des alertes communautaires, c'est un réseau communautaire d'alerte qui a été mis en place, mais aussi nous avons les CLA, les Community Liaison Assistants, qui sont des assistants qui sont là justement pour nous permettre d'avoir un niveau d'alerte précoce assez réduit et qui nous permettent d'intervenir aussi rapidement. Sur un autre plan, vous conviendrez avec moi que des efforts conséquents ont été faits par le gouvernement congolais, par la mise en place justement d'une structure pilotée par Madame Jeannine Mabunda, justement pour lutter contre toutes ces violences sexuelles et mettre un terme à l'impunité qui est observée depuis très longtemps en République démocratique du Congo concernant surtout les violences sexuelles. Donc nous travaillons d'un commun accord, mais vous savez aussi que d'autres sections substantives de la MONUSCO travaillent d'arrache-pied en étroite collaboration avec d'autres partenaires qui sont sur le terrain pour réduire de manière significative ces tendances observées depuis très longtemps concernant les violences sexuelles perpétrées par toutes sortes d'individus, aussi bien des groupes armés, mais aussi ça et là quelques cas rares observés au niveau des forces de défense et de sécurité. Donc tout le monde travaille d'arrache-pied pour mettre un terme à l'impunité, tout le monde travaille d'arrache-pied pour mettre en place des mécanismes qui nous permettent non seulement de superviser, mais d'agir à temps pour mettre un terme à tout cela. Donc merci pour votre question. Nous prenons, oui, peut-être que Florence a quelque chose à rajouter.
Oui, je vous renvoie à l'annonce que j'ai faite il y a 5 minutes, selon laquelle aujourd'hui il y a justement à Bukavu un comité de pilotage d'un programme conjoint justement de lutte contre l'impunité et l'appui aux victimes de violences basées sur le genre, un programme mis en place par plusieurs agences, fonds et programmes des Nations Unies avec le ministère de la Justice et la PNC. C'est quand même un programme de 18 millions de dollars américains financé par le Canada. Avec des résultats significatifs. Et aujourd'hui, justement, demain se tiendra le comité de pilotage au cours duquel seront évaluées les activités déjà mises en œuvre depuis 2013 et celles à venir pour les 2 prochaines années du programme. Donc, comme l'a dit Monsieur Basse, c'est une question qui est prise très au sérieux, à la fois par la MONUSCO, par les agences fonds et programmes et aussi par les partenaires techniques et financiers de la RDC, dans la limite des moyens disponibles, bien évidemment.
Merci Florence pour ce complément d'information. Donc nous prenons une deuxième question ici à gauche. Oui, passez le micro, s'il vous plaît.
Merci. Thierry Maï de l'Agence congolaise de presse. Madame, maintenant qu'on parle des préparatifs, des investissements dans la région des Grands Lacs, on parle également de l'exploitation illicite des minerais dans le sud Kivu. Il semble que les Nations Unies seraient soit impliquées, soit intéressées à cette activité qui consiste au blanchiment d'argent. Qu'est-ce que vous en dites?
Je vous remercie pour votre question. Donc effectivement, il y a les préparatifs pour la conférence sur les investissements du secteur privé dans la région des Grands Lacs. Le but est d'attirer des investisseurs pour créer toutes les conditions pour ramener la paix dans la région. Donc c'est une conférence économique. La deuxième partie pour laquelle vous aurez plus de détails lors du briefing de vendredi. La deuxième partie de votre question fait référence au blanchiment possible par les Nations Unies dans le site de Kivu. Effectivement, nous avons eu écho de cette information. Et je crois qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que les Nations Unies sont complices d'un quelconque blanchiment. Ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre au point. Nous ne sommes en aucun cas complices de cela. Vous faites référence à des agences et des Nations Unies ou des ONG qui auraient loué, n'est-ce pas, des locaux à des personnes figurant sur la liste la liste noire du groupe des experts. Certaines agences ont pris déjà action et ont déjà pris des mesures pour faire cesser ça. Une sensibilisation a été faite au niveau de tout le système des Nations Unies afin d'attirer l'attention des chefs d'agence à ce problème, vraiment. Donc des mesures ont été prises en compte. Maintenant, la traçabilité, j'ai envie de dire, de la chaîne de location de biens immobiliers ici en RDC n'est pas toujours facile à faire, et on en est conscient et on est en train de travailler sur ce sujet. Mais une fois encore, chacune des entités des Nations Unies a été sensibilisée à ce fait et on leur a demandé de vérifier ce qui était fait et où on en était par rapport à ça.
Oui, merci. Peut-être juste pour rappeler un ou deux points, c'est-à-dire que vous conviendrez avec moi que la position de la MONUSCO, des Nations Unies est très claire en ce qui concerne justement ce trafic de minerais hors de la République démocratique du Congo. Je pense qu'un cadre juridique et légal a déjà été mis en place avec d'autres partenaires pour non seulement assurer la traçabilité des minerais qui sont exploités, mais aussi pour vérifier la destination de ces minerais. Nous avons appris ou nous avons pris connaissance de cet article-là qui est paru, publié par RFI. Nous avons vu ça ce matin d'ailleurs, et je veux tout simplement dire que il faudra aussi qu'on fasse attention, ne pas généraliser parce que deux ou trois individus ou une dizaine d'individus appartenant à tel ou tel système des Nations Unies ou à la MONUSCO auraient loué des maisons et que fondamentalement ou de manière automatique c'est toutes les Nations Unies ou c'est toute la MONUSCO qui serait impliquée dans une opération de blanchiment d'argent. Je pense qu'aussi, il faut être prudent et faire très attention pour ne pas tomber dans des généralisations qui sont parfois ridicules. Soyons sérieux. Comme Florence l'a dit tout à l'heure, il faut s'entendre sur une chose. Le dispositif mis en place ici pour accéder à un logement ne permet souvent pas de savoir réellement qui est détenteur de cette maison-là. Il y a tellement d'intermédiaires, nous tous nous sommes ici locataires, et il est très rare de savoir réellement à qui appartient ce gars-là, mais même si on le savait, aller prouver l'origine de son argent, je pense qu'il y a un travail beaucoup plus fouiné qu'il faudra faire pour justement déterminer avec précision d'où vient la richesse de tel ou tel homme avec beaucoup plus de précision. Donc c'est ce que nous pouvons dire. Au niveau de l'administration de la MONUSCO, les mesures sont prises immédiatement et aujourd'hui, toute une série de mesures ont été prises, particulièrement à Bukavu, pour non seulement faire la cartographie exacte du personnel civil ou militaire de la MONUSCO et savoir exactement à qui ils ont loué ces maisons, mais troisièmement aussi savoir si le processus d'autorisation émis par la sécurité a été bel et bien mené à son terme et de manière rigoureuse. Donc voilà ce que nous pouvons dire pour le moment, mais cette affaire est en train d'être suivie de très près par l'administration de la MONUSCO et nous prendrons les mesures idoines qui s'imposent. Donc tout de suite direction Goma pour prendre deux questions aussi à Goma.
Merci à Goma, les rangs sont un peu dispersés aujourd'hui du fait de la pluie. À droite.
Ah oui.
Oui, je m'appelle Lise Katsana, je suis journaliste indépendant, je travaille notamment avec le site d'information Congo 24. J'adresse ma question au monsieur Basse, mais également au porte-parole. En fait, j'aimerais savoir, la MONUSCO peut-elle confirmer aujourd'hui de posséder ou d'avoir les moyens de surveillance aérienne, car quasiment toute sa flotte de drones, on en parle depuis, vu le massacre en Amérique, l'insertion des FTLR, c'est clair, c'est difficile de faire la prévention par la surveillance aérienne vu les résultats. Qu'en est-il?
Je peux tout de suite répondre, ou bien Colonel Martin, vous voulez prendre la première partie ou je la prends? Bon, très bien. Donc, je peux tout simplement dire concernant notre flotte aérienne, comme vous l'avez tantôt indiqué, concernant nos aéronefs sans pilote, qui, comme vous le savez, nous ont permis d'acquérir une capacité dans le recueil, la collecte et l'exploitation du renseignement, qui est partagé aussi bien au sein de la MONUSCO, mais aussi qui est partagé avec nos partenaires FRDC qui sont sur le terrain. Mais au-delà même des applications purement militaires de ces aéronefs, vous n'êtes pas sans oublier aussi que ces aéronefs sans pilote nous ont permis de sauver des vies en sonnant l'alerte précoce et qui nous a permis de nous déployer à temps pour aller porter secours à ceux qui en avaient besoin. Oui, nous avons connu des problèmes techniques, mais vous savez, ça entre dans le cadre normal de la technique. Il y a des défaillances techniques. Récemment, nous avons en Ituri eu un petit incident, mais l'aéronef ne s'est pas écrasé, mais bien au contraire, il est descendu avec son parachute parce qu'il y avait un incident technique. Mais ceci ne nous handicape pas du point de vue de la conduite opérationnelle de nos activités, puisque nous avons toujours une capacité qui nous permet réellement de remplir notre travail et de poursuivre la traque contre les groupes armés et de manière déterminée. Maintenant, concernant Miriki, mon colonel, je n'ai pas très bien saisi la deuxième partie, peut-être que vous pouvez la prendre.
Non, sinon qu'il a demandé si, avec les incidents de nos drones, si on pourra surveiller les activités négatives dans la zone de Miriki également, j'espère.
C'est bien
sinon,
ça.
Sinon, je voudrais ajouter que l'incident de la dernière fois, c'était pas, comme l'a dit Félix, c'était pas un crash, c'est plutôt un atterrissage difficile, sinon forcé, en termes d'aviation, puisque je suis aviateur. Nos drones sont toujours opérationnels. Le drone de la dernière fois, c'était un drone accidenté que l'on avait voulu remettre en activité. Et après le dépannage sur l'appareil, il y a eu un vol d'essai qui a été effectué. Et ce vol n'a pas marché. Et je vais vous dire que en matière de drone, quand ce n'est pas un accident réel et que c'est un petit incident, les drones ont des parachutes qui leur permettent de descendre pratiquement sans problème, sans causer de grands dommages. Et que cet appareil, l'appareil de la dernière fois, ce n'était pas un appareil opérationnel, c'était un appareil accidenté qu'on a essayé de remettre en service. Merci.
Oui, peut-être pour couvrir le deuxième volet de la question qui concerne notre capacité à prévenir des incidents tels que ceux qu'on a observés à Miriki. Je peux tout simplement vous dire que certes, ces drones ou ces aéronefs sans pilote nous permettent de retenir une liberté d'action et permettent au commandant de la force ou à celui qui mène les opérations de pouvoir prendre les initiatives qu'il faut pour mener nos activités. Maintenant, il faudra aussi relever une chose, c'est-à-dire que ces engins ne voient pas tout le temps, partout, à tout moment. Si à mauvais temps, nous n'avons pas le temps de décoller et de faire le travail, ou ça dépend aussi du canopy, ça veut dire de la végétation de manière très générale, qui nous permet, qui peut aussi nous empêcher de voir comme il se faut. Mais ils sont très utiles et nous rendent énormément de services pour le bien des populations civiles. Donc nous restons à Goma, si je ne me trompe, pour une deuxième question. Oui, Goma.
Oui, merci. C'est Norbert Mundoura pour les comptes du journal L'Emergence. Ma question s'adresse à Madame Florence Marshall. IAP, le Médecins sans frontières Hollande, suspend ses activités dans la zone de santé des Moissons, en territoire de Massissi. Cela, justement, la population est à bout de souffle par ce vide, parce que le gouvernement, jusqu'à présent, n'a pas encore couvert justement ces vides. Ma question est de savoir si justement la population peut compter à des solutions palliatives pour couvrir ces vides par d'autres actions humanitaires. Je vous remercie.
Oui, merci. Je vais appeler le Sylvestre, mon collègue d'Otcha, qui va pouvoir répondre à votre question.
Bienvenue, Sylvestre.
Merci. Effectivement, il y a un partenaire qui a suspendu ses activités dans la zone pour des raisons de sécurité. Quand l'environnement ne permet pas à un acteur d'apporter la réponse, l'assistance aux personnes dans le besoin dans des conditions qui se doivent, il est normal qu'on reconsidère un peu la situation. De toute façon, la situation a été prise en compte et la question est sérieusement étudiée pour voir comment pallier à ce vide qui a été laissé.
Merci à Sylvestre. Donc, retour ici à Kinshasa pour prendre encore deux questions. Sur la droite, donnez le micro. Ah oui, ok, donnez à...
Merci, venant vous dire ça pour la RTNC. La question serait adressée à Monsieur Maman, le représentant spécial.
Mais il n'est pas là.
Il n'est pas là. La question vous est adressée.
Je suis son porte-parole.
Oui, en tant que porte-parole, vous prenez la question. Il a déclaré le week-end passé, dans sa rencontre avec la presse nationale qu'internationale, que la MONUSCO ne se substitue pas à l'administration congolaise. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? C'est comme si la MONUSCO s'est reproché une certaine ingérence. De deux, une semaine
non,
après la...
Une question, s'il vous plaît. On a dit une question.
C'est simple. Vous trouverez que ça prend moins de 10 secondes.
Allez-y alors.
Une semaine après la reprise de la coopération militaire entre le FRDC et la MONUSCO, c'est tôt peut-être de poser la question sur le bilan, mais comment ça évolue sur le terrain? Merci.
Merci. Permettez que je commence par la deuxième question. Vous avez, certes, nous avons signé un protocole d'accord depuis le 28 janvier 2016 avec le gouvernement congolais dans le cadre de la reprise de la coopération militaire qui avait été temporairement suspendue pour des raisons que nous connaissons tous ici et que on s'est félicité de la reprise de cette coopération et nous avons loué aussi et la bonne volonté des autorités congolaises et leur engagement et leur clairvoyance concernant justement tous les défis qui nous interpellent, notamment la protection des populations civiles, mais aussi la neutralisation des groupes armés et par ricochet, bien sûr, la stabilisation de la République démocratique du Congo en soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Il y a eu des arrangements techniques internes qui ont été mis en œuvre, il y a eu des rencontres qui ont déjà été initiées et les deux parties sont en train de travailler pour mettre en place des plans jouables, des plans réalistes qui nous permettent de nous engager avec détermination auprès des FRDC. Évidemment, comme vous le savez, nous sommes en soutien. Ce sont les FRDC qui s'engagent et nous les soutenons. Mais nous les soutenons avec toute la détermination, nous les soutenons avec tous nos moyens, nous les soutenons et moralement et tactiquement et au plan logistique, mais aussi au plan de l'acquisition et du partage de renseignements et encore au plan médical concernant l'assistance médicale et les évacuations médicales qui pourraient survenir suite aux opérations qui seront menées. Donc, nous sommes en train de travailler et nous poursuivons cette dynamique et je pense que l'engagement de part et d'autre est assez significatif et que très bientôt, nous allons nous lancer à fond dans ces opérations-là. Mais attention, il faudra aussi rappeler que les opérations militaires, ce n'est pas une balade à la place de Kinshasa vers la gare. Ce sont des opérations sérieuses et ce sont des hommes qui vont mettre en jeu leur vie, mais qui sont prêts à le faire pour les populations congolaises qui en ont besoin. Maintenant, la première question qui a trait à la déclaration de M. Mamadou Sidikou le samedi lors du petit déjeuner de presse qui a été auquel vous avez été convié, il a été très clair. Quand il parle d'administration parallèle, je pense qu'il veut marquer de manière très ferme la souveraineté de l'État congolais. Parce que, tout simplement, il estime qu'il n'y a pas d'administration parallèle, il n'y a pas de proconsul des Nations Unies ici en RDC. Non, nous sommes là sur invitation du gouvernement congolais. C'est un pays qui a ses institutions, qui fonctionnent. Ces institutions doivent être respectées et dans tout ce que nous allons faire, évidemment, ce sera en étroite collaboration avec les autorités congolaises qui nous ont permis d'être là pour soutenir et les aider dans leurs efforts de stabilisation de la République démocratique du Congo parce que la RDC est membre à part entière du système des Nations Unies, sa voix compte, elle prend part au débat et elle met sur la table aussi ses opinions, ses recommandations et peut-être même éventuellement ses suggestions. Donc voilà pourquoi M. Maman a voulu de manière définitive couper court à une certaine propension à penser que les Nations Unies étaient là pour donner des leçons ou en tout cas que les Nations Unies étaient là pour aller à l'encontre des objectifs définis par le gouvernement congolais. Non. Le gouvernement congolais est souverain. Nous avons l'obligation de respecter cette souveraineté-là et de travailler en accord avec les autorités que le pays s'est donné. Donc voilà, nous prenons une deuxième question ici sur la gauche. Oui, donnez le micro à Sonia, là, qui est à côté de vous. Oui, oui,
oui,
une dame
bonjour.
Au moins.
Sonia Rollet de RFI. Donc c'est toujours à propos de cette histoire de maison. C'est pas un problème nouveau puisque ça fait plus de 10 ans en fait que ça dure. On sait que ces villes, et c'est ce que dit la société civile du Sud Kivu, que ces villes ont été aussi construites à travers ce commerce qui juste ici était illégal, mais qu'il y a des efforts qui ont été faits pour qu'il y ait un commerce légal. Et ce que dit notamment la société civile du Sud Kivu, c'est que ils ne comprennent pas pourquoi les Nations Unies, les agences et les ONG n'ont pas de politique a priori. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait des dénonciations de ce type pour que des actions soient prises, qu'il n'y a pas une nécessité ou un besoin d'avoir une politique globale des Nations Unies, des agences et des ONG pour justement faire ce contrôle a priori et pas se retrouver dans les murs et faire ce contrôle a posteriori. Surtout que le cadastre est là, le système n'est pas parfait, mais le cadastre peut aussi montrer qui est le propriétaire de ces maisons.
Merci, je comprends très bien votre préoccupation parce que c'est vous d'ailleurs qui avez écrit cet article-là. Donc je peux tout simplement vous dire, vous rappeler que j'ai dit tantôt que il y avait un cadre juridique et légal qui existe au sein des Nations Unies concernant justement le blanchiment de l'argent, ou en tout cas la fuite des minerais, comme vous semblez le dire. Évidemment, j'ai aussi expliqué ici qu'il y avait des difficultés réelles quant à pouvoir, de manière claire, remonter les sources jusqu'aux propriétaires. Et j'ai encore posé le problème de manière très claire. Est-ce que aujourd'hui, y a-t-il des gens qui ont en leur possession des informations ou en tout cas des preuves qui attestent que les propriétaires de ces maisons-là ont acquis leurs biens de manière, illégale? Donc c'est tout un travail qu'il faudra faire aussi en amont. C'est vrai qu'il faut relayer les préoccupations des différentes entités, notamment la société civile, mais je pense aussi que la parole de la société civile ne peut pas être prise pour de l'argent comptant ou pour une évangile. Je vous conseille de pousser beaucoup plus les investigations pour pouvoir mettre à notre disposition des informations complémentaires. Mais j'ai dit encore une fois que notre volonté à mettre un terme à cet état de fait est tout à fait marqué, parce que Florence l'a rappelé tout à l'heure, je pense qu'il y a bien une agence qui n'était peut-être pas au courant de toutes ces informations, mais une fois qu'on les a touchées, tout de suite des mesures énergiques ont été prises sur le champ. Ceci, je pense, est une indication claire, justement, de la volonté des Nations Unies de manière très globale à ne pas tomber dans ce cas de figure. Évidemment, le travail se poursuit, les choses vont se poursuivre pour mettre un terme à tout cela. Donc, nous partons à Goma tout de suite pour prendre une question à Goma avant de revenir à Kinshasa et de boucler cette conférence de presse. Goma, vous avez la parole.
Merci, c'est Saïd Yabassi Majid. Peut-être pour Florence. Florence, les 3D, vous nous avez fait un plan où vous avez eu l'approche 6 sur 6. Donc il y avait 60 millions sur 6 millions de personnes qui seraient en besoin en eau et en scolarité par rapport au plan d'action humanitaire. Si je n'abuse pas de ces informations, j'aimerais savoir quel serait le traitement par rapport aux femmes et aux enfants.
J'ai l'impression qu'il y a un petit problème de micro.
Non, non.
Ça va, si ça passe. Ok, d'accord. Par rapport au plan d'action humanitaire 2016, on vous l'a dit la semaine passée, nous avons fait une évaluation de besoins dans le pays. Il y a environ 7,5 millions de personnes qui sont dans le besoin. Mais étant donné les réalités sur les terrains et parfois aussi la difficulté de mobiliser certains moyens pour assister toutes ces personnes, nous avons ciblé pour l'exercice 2016 6 millions de personnes. Et dans ces 6 millions de personnes, il y a aussi des femmes et des enfants, des femmes allaitantes et enceintes et les enfants qui sont, je n'ose pas tellement dire une catégorie privilégiée, mais qui constituent quand même une grosse préoccupation dans l'action humanitaire. Alors si la question c'est juste de savoir s'il y a des femmes et des enfants qui sont concernés par notre assistance, oui, les femmes et les enfants sont concernés dans la réponse qui est prévue pour l'exercice 2016, pourvu qu'on arrive aussi à mobiliser les 690 millions de dollars dont on a besoin pour répondre à tous les besoins.
Merci Sylvestre. Donc retour ici à Kinshasa pour prendre une question là sur la gauche. Passez les micros Symphorien, là oui. Merci.
Rigobert Kabongo pour les courriers d'Afrique du troisième millénaire. Ouvira et ses environs est menacé par une rébellion par certaines factions rebelles, et les FARDC depuis 2 jours a demandé à la population des contrées avoisinant Ouvira de vider les quartiers. Alors je voulais savoir si la MONUSCO est au courant de ces factions rebelles et quelles sont ces factions rebelles qui menacent Ouvira et ses environs. La question est adressée au porte-parole militaire.
Oui, donc, lieutenant-colonel Martin, la préoccupation de notre confrère ici à Kinshasa, vous pouvez y apporter une suite.
Merci, Félix. Merci, Félix. Et effectivement, dans la région d'Ouvira, il y a différents groupes armés, Maïmaï, qui sont en train d'opérer dans la zone et qui perturbent la quiétude des populations civiles. Et comme vous le savez, les FADC sont en opération dans cette zone depuis plus de 3 mois. Et je pense qu'ils sont en train de faire un bon travail. Et d'abord, les FNL qui ont voulu s'installer dans la zone ont été boudés, ont été repoussés par les FADC. Et puis les différents groupes Maïmaï aussi de la zone ont été également repoussés par les FADC. Et dans la zone, nous avons enregistré beaucoup de violations des droits de l'homme et commises par ces différents groupes armés. Je ne sais pas si Félix a quelque chose à ajouter.
Oui, peut-être juste pour lui dire que nous ne sommes pas au courant de ce déplacement de population sous... sur instruction des FRDC dans la plaine, dans le territoire d'Ouvira. Mais je dois dire que effectivement, vous savez, dans le territoire d'Ouvira, la plaine de la Rosésie constitue une préoccupation majeure. Le colonel a parlé tantôt des FLN. Oui, vous avez parlé de groupes armés. Je pense que le groupe armé le plus significatif dans cette partie du territoire d'Ouvira, je pense que effectivement ce sont les FLN, un groupe rebelle burundais qui avait pris ses quartiers un peu vers Kiliba et Kiliba-Ondes, et suite à laquelle la force de la MONUSCO avait engagé aussi bien ses forces spéciales de la FIB que de la brigade d'intervention que ses hélicoptères d'attaque pour déloger ces rebelles burundais, et que sur le terrain, dans la plaine de la Rosésie, effectivement, les FRDC, appuyés par la MONUSCO qui vient aussi tantôt de renforcer sa présence dans cette zone-là, nous travaillons tous en étroite synergie pour neutraliser tous ces groupes armés, parce qu'il y a énormément de groupes Maïmaï qui essaiment cette partie, mais il y a aussi une présence des FDLR dans la province du Sud-Kivu qui, dans le cadre de l'opération Sokola 2, sont en train d'être traités et d'être combattus par les FRDC dans cette province du Sud-Kivu. Et aujourd'hui, ce que nous pouvons dire tout simplement, c'est que des résultats conséquents sont engagés par nos partenaires congolais sur le terrain contre tous ces groupes armés qui mènent des exactions contre les populations civiles du Sud-Kivu. Donc oui, donc nous pouvons prendre une dernière question ici à Kinshasa.
Merci pour la parole. C'est Théodore Ngandou au compte de Télé7. À sa dernière rencontre avec le membre du bureau de la CENI, Maman Tsidikou a demandé à la CENI de publier un calendrier réaliste prenant en compte les élections présidentielles et législatives dans le délai constitutionnel. Mais tout à l'heure, à 13h, la CENI annonce qu'elle devra publier les calendriers des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs. Est-ce ces calendriers est opportun par rapport à la demande que Maman Tsidikou avait introduite à la CENI demandant de publier les calendriers portant sur les élections présidentielles et législatives?
Oui, merci pour votre question. D'abord, je voudrais rappeler que le mandat de la MONUSCO en matière d'élection est bel et bien défini dans la résolution 2211 en ses articles 19, 20 et 21. Et il est tout à fait aussi clair dans ce mandat que nous avons une mission bien précise qui est celle d'accompagner le processus électoral pour que ce processus puisse être inclusif et que ce processus puisse être crédible, transparent. Vous avez raison d'indiquer que M. Maman Tsidikou avait effectivement fait cet appel ou lancé cet appel à la CENI, parce que la préoccupation majeure est celle-là. Ça veut dire que du temps, on n'en a plus. et qu'il faut évidemment que la CENI s'engage très rapidement dans le processus électoral, notamment la révision du fichier électoral qui pose problème, parce que vous le savez que tout le monde s'est accordé sur la non-fiabilité de ce fichier électoral. D'abord, bien en amont, en 2011, n'oubliez pas que suite aux élections qui ont eu lieu ici, des contestations ont été posé sur la table relative justement à la non-fiabilité du fichier. Les observateurs aussi qui étaient là pour suivre le processus électoral avaient relevé justement ces insuffisances-là et tout le monde s'est accordé à nettoyer le fichier électoral mais aussi d'inclure les nouveaux majeurs. Donc c'est à cela que les gens travaillent. Monsieur Maman a rappelé qu'il n'y avait pas de temps à perdre et qu'il fallait s'engager rapidement. Maintenant, la publication par la CENI de l'élection des gouverneurs, je pense que ce qu'il faudra considérer, c'est que la CENI est en train de travailler. La MONUSCO, dans le cadre de ses bons offices, a décidé de l'accompagner, parce que vous avez parlé tantôt de cette nouvelle publication, mais il y a aussi aujourd'hui l'appel d'offres qui a été lancé pour avoir les kits qui permettront de mener ces élections. Donc, en définitive, ce qu'il faut retenir l'un dans l'autre, c'est que la MONUSCO est disposée, comme l'a indiqué M. Maman Sidikou, à accompagner tout le processus électoral. Évidemment, une requête d'ailleurs de la CENI a été envoyée parce que le soutien logistique de la MONUSCO est indispensable. Une requête de la CENI a été envoyée sur la table du Conseil de sécurité pour que les moyens logistiques soient mis en place pour que nous puissions accompagner la révision du fichier électoral, mais accompagner le processus électoral dans toute sa globalité. Donc, merci, c'est sur ces termes-là que nous mettons fin à cette conférence de presse. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui à mercredi prochain et très bonne semaine.